I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, le podcast où on vous parle de technologie, d'internet et de gadgets. Nous sommes en août 2022 et c'est l'épisode 471. On va parler d'Amazon qui rachète iRobot, les aspirateurs robots, de quelques infos sur l'intelligence artificielle qui génère des images cet été, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, et puis de la préparation de l'humanité à l'arrivée des ordinateurs quantiques qui pourraient casser tous nos chiffrements. On a plein d'autres news qu'on va aborder ensemble. Je ne suis pas Patrick Béja, je suis Guillaume Vendée, je suis ravi de vous accueillir pour cet épisode et je suis d'autant plus ravi d'accueillir quelqu'un qu'on connaît bien dans le monde du podcast et que vous avez déjà eu l'occasion d'entendre. C'est le fier et digne représentant du podcast Niptech, c'est Baptiste Freit. Salut Baptiste.
Salut Guillaume, grand plaisir d'être là, grand plaisir comme tous les étés et des bonnes news à raconter, je dirais.
C'est marrant parce que j'avais plus en tête que ça faisait quoi ? C'est la troisième année, c'est ça, qu'on fait un épisode du Rendez-vous Tech au moins ensemble. Parfois, il y a d'autres personnes de l'équipe de Niptech qui joignent à nous, etc. Et bon, on est dans une petite configuration un peu intime tous les deux. On est en tête à tête là pour parler de nos sujets autour de l'actu de cet été. On va pas se mentir, hein, y a pas des grandes choses qui nous bouleversent, mais c'est toujours cool d'avoir un épisode où on peut se poser et faire le point sur plein de petites news qu'on n'aborderait pas forcément dans des épisodes de podcast, prendre le temps de les développer ou pas. On va voir ensemble ce qu'on va aborder en détail. On va faire juste un petit coucou pour remercier les producteurs du Rendez-vous Tech, les producteurs de cet épisode en particulier, à qui on va faire des bisous chaleureux, qui sont pas aussi chaleureux que ceux de Patrick, mais quand même on fait tout ce qu'on peut, qui sont destinés à Franck Matignon et à Derek Herb. Donc on leur fait évidemment un clin d'œil et un gros coucou. Et puis merci évidemment beaucoup à eux de contribuer à financer le Rendez-vous Tech. On va attaquer tout de suite, Baptiste, avec une première news parce que ça ressemble à une news d'été. C'est un peu l'info marquante qu'il faut retenir là de cette dernière semaine. Et en même temps, vous allez voir qu'on a vite fait le tour au niveau de l'info de fond, mais il y a peut-être beaucoup de choses, nous, à analyser et à en dire. On va voir ça ensemble. Oui, on doit vous relayer le fait qu'Amazon a sorti le carnet de chèques. Ça faisait un petit peu de temps qu'on n'avait pas vu Amazon sortir le carnet de chèques avec des gros montants. Gros montants au premier abord. Et puis, malgré tout, quand on le met en perspective de plein d'autres montant d'acquisition dans le domaine de la tech, finalement, c'est plus si gros que ça. C'est juste, 1,7 milliard de dollars. C'est pas grand-chose. C'est Amazon, donc, qui rachète iRobot. Alors, c'est une société qui fabrique et qui commercialise des aspirateurs robots. Je pense que c'est peut-être la marque emblématique des aspirateurs robots, parce que des aspirateurs robots, il y en a de plein de marques maintenant. Il y a les Xiaomi, il y a... je sais pas si t'as d'autres marques en tête, Baptiste. Moi, spontanément, je penserait à iRobot avec les Roomba, mais...
Ouais, il y a Neato qui est connu, mais effectivement, oui. Roomba, iRobot, c'est vraiment eux qui ont inventé le domaine il y a quelques années, c'était vraiment les premiers, et aujourd'hui encore les plus chers, je dirais que c'est eux qui les font, non ?
Je pense que ça reste eux, effectivement, en matière de poids, d'emprise, de rayonnement. Et donc, c'est une acquisition qu'ils font, ils rachètent, hein, comme ils avaient racheté d'ailleurs Ring, les sonnettes connectées, il y a de ça quelques années maintenant. C'est assez rigolo parce que donc moi je me suis appuyé entre autres sur l'article de The Verge et puis bon ils sont très forts hein, The Verge, ils se font leur auto-promo, ils relaient le fait qu'ils avaient testé Astro, on en avait entendu parler tous dans le domaine de la tech il y a de ça quelques semaines, quelques mois maintenant, qui est un robot et il était présenté par The Verge comme étant ce robot Astro, un mix entre un robot aspirateur et un éco-show. Et c'est vrai qu'il faut vraiment s'imaginer que c'est un robot qui se balade chez toi avec l'écran qui retranscrit le visage d'un robot. Donc Amazon les rachète. Alors tout de suite, spontanément, on peut se dire bah ouais, forcément, Amazon s'immisce encore un petit peu plus dans notre intérieur. Ils avaient déjà la main sur un regard qui se porte sur votre porte d'entrée. Ils développent des micros maintenant hein, qui sont dans nos intérieurs et ils vont pouvoir mapper notre maison. Bon, c'est pas si simple, hein, bien entendu, mais on imagine que le fait d'avoir une cartographie de l'intérieur et un robot qui se balade comme ça avec l'engouement des consommateurs, parce que je pense qu'aujourd'hui, tout tout le monde est assez convaincu, quand on a une maison qui s'y prête, du bien fondé d'un aspirateur robot et est enclin à s'équiper aujourd'hui d'un aspirateur robot, je sais pas, Baptiste, toi en plus tu connais bien Amazon, enfin tu connais assez bien Amazon, et puis c'est des choses que tu dois surveiller. Est-ce que ça t'inspire, toi, ce rachat?
Ouais, c'est vachement intéressant parce que comme tu le dis, c'est vraiment une pièce un peu, comment dire, c'est un truc qui va bien avec la stratégie de domotique qu'ils ont, parce que c'est finalement l'un des trucs connectés que les gens ont le plus, et d'après moi, c'est l'un aussi des plus utiles, tu vois. L'Alexa, il y a encore des gens qui cherchent un peu l'usage, tu vois. Les lampes connectées, c'est bien, mais ça reste cher, tu vois. L'aspirateur robot, c'est vraiment un truc qui est connecté et que tout le monde utilise. Donc pour ça, je trouve que c'est vachement intéressant. Et effectivement, le mapping, c'est aussi un truc qui va être clé, parce que tu t'imagines, t'as pas envie d'apprendre à l'app à dire, ah, alors la lumière connectée, elle est dans le salon, le truc, le machin, tu vois. Si demain t'as une carte et que tu peux juste dire, ah, la lampe, elle est là sur la carte, c'est vachement plus simple, tu vois. Donc pour ça, ça fait énormément de sens. Après, des gens s'inquiètent un peu du fait que Amazon a la carte de ta maison. Mais je sais pas si c'est vraiment une crainte qu'on devait avoir. Je sais pas ce que t'en penses pour ça.
Mais je sais pas non plus si on doit vraiment craindre ça, parce que finalement la carte en tant que telle, je sais pas si ça leur apporte beaucoup d'informations, je sais pas si ça leur apporte beaucoup de valeur. Ce qui est finalement hyper intéressant pour eux, c'est d'avoir une cartographie. En fait, quand on parle de cartographie, c'est pas simplement le plan d'un architecte que vous allez faire une fois quand vous faites votre rénovation, mais c'est une carte qui est dynamique. C'est-à-dire que jour après jour, votre intérieur, il peut changer, parce que il peut y avoir des meubles qui changent, parce que la configuration de la pièce peut changer. Enfin, il peut y avoir beaucoup de changements au quotidien dans une maison. Et ça, c'est une information qui n'est peut-être pas intéressante pour Amazon directement. Je ne suis pas certain que le fait que vous ayez mis votre table basse proche de l'entrée ou au bout du couloir, ça leur change leur vie. Mais j'imagine qu'il y a un certain nombre d'éléments de données qui peuvent être intéressants à long terme pour suivre un petit peu l'évolution du foyer. Et même, je pense que ça peut être de toute façon très intéressant d'avoir cette distribution de produits pour eux, pour avoir un pied assez important, une mainmise assez importante dans le domaine de la domotique. Moi, la question que je me posais, et je ne sais pas si tu as un embryon de réponse là-dessus, Baptiste, mais pourquoi est-ce qu'Amazon sort le carnet de chèques pour racheter cette marque? Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, créer une marque d'aspirateur robot quand tu es Amazon, je ne sais pas, est-ce que ça coûterait si cher que ça? On voit qu'il y a des marques chinoises, je citais tout à l'heure Xiaomi, qui s'y sont mis assez rapidement et qui ont fait des produits tout à fait convaincants sans avoir à racheter une marque emblématique. Alors, Amazon n'est pas un acteur chinois qui a le savoir-faire de la production d'appareils comme peuvent l'avoir des acteurs chinois. Mais pourquoi est-ce qu'ils rachètent iRobot et qu'ils n'ont pas développé tout simplement les produits Amazon qui fabriquent des aspirateurs robots, quoi?
C'est une bonne question et franchement, il y a toujours un mystère, tu vois, autour de ça. Mais ouais, je pense que dans les raisons, il y a d'une part le fait que ça te donne des parts de marché. Tu vois, quand ils achètent une marque comme ça, naturellement, forcément, ils ont tout de suite une énorme base installée, ce qui est vachement intéressant. Sachant que il y avait des procès pour concurrence déloyale dans lesquels Amazon faisait partie.
Oui.
Et il y avait des emails qui étaient sortis quand ils avaient racheté Ring. Donc Ring, c'est une marque de... à l'origine, ils faisaient des sonnettes connectées et maintenant, ils font un peu tout. Ils font aussi des caméras, etc. Ouais. etc. Et il y avait des références à ça et où ils disaient qu'en fait, c'était clairement pour acheter une base installée, tu vois, plus que pour la technologie en soi. Parce qu'effectivement, je pense que la technologie des aspirateurs robots, aussi avancée que ce soit... Je pense que Amazon, s'ils le voulaient, ça leur coûterait beaucoup moins que 1,7 milliard de le développer. Mais ça leur permet d'avoir tout de suite une marque qui est établie. Peut-être une marque qui a plus la confiance aussi, que tu vois, parce que Amazon, pour toi aujourd'hui, tu vois, c'est Amazon Basics. Ah, c'est pas les trucs de grande qualité que t'as envie peut-être d'investir de l'argent dedans. Donc, je pense que c'est plus ça. Tu vois, c'est la marque et la base installée. Et pour ça, c'est intéressant. Après, le point, je pense, c'est vraiment qu'ils veulent avoir ça leur permet vraiment d'avoir un écosystème dans la domotique, quoi. Malgré le fait qu'il maintenant va y avoir des standards, c'est un peu aussi les nouveautés dans le domaine de la domotique, c'est beaucoup, tu sais, le standard Matter qui va arriver. Mais malgré ça, je pense que le fait d'avoir un écosystème, d'avoir une marque comme Amazon qui est très forte, ça peut être un truc important pour eux. Et dernière chose, si je peux me permettre, c'est que il y a 2 semaines, on se souvient, ils avaient racheté One Medical. Je pense que Patrick en a déjà parlé dans le Rendez-vous Tech, qui est donc une chaîne de docteurs. Alors, ça n'existe pas trop aux États-Unis, donc du coup, il y a une chaîne qui fait ça. Tu as des docteurs, des généralistes. Et en fait, l'une des explications qu'on avait pour un rachat si agressif, c'est que le patron d'Amazon, on sait, il a changé depuis un an à peu près, c'est Andy Jassy, si je ne me trompe pas. À la place de Jeff Bezos, il veut aussi montrer sa patte, il veut montrer qu'il a la main sur le truc, et donc ça lui permet aussi de montrer qu'il n'est pas juste en train de continuer un peu ce que Jeff Bezos faisait, mais il veut vraiment mettre sa marque dans le marquer son passage chez Amazon, quoi.
Il veut marquer l'histoire d'Amazon avec ses actions et sa stratégie, mais ça c'est très logique finalement quand on regarde tout ça. Et je pense qu'effectivement l'argument de dire bah oui, en fait ce qui nous intéresse c'est pas tant de vendre des appareils qui sont assemblés qui aspirent la poussière chez vous, parce que ça, si vraiment c'était une finalité, effectivement il serait en mesure de le faire. Mais tu as raison, d'arriver à s'immiscer dans notre domicile. Je dis s'immiscer, il ne faut pas le voir que comme une incursion comme ça, de manière mal intentionnée, mais simplement pour que ça rentre dans leur stratégie commerciale globale de mieux connaître notre intérieur pour mieux nous distribuer des produits domotiques. Bah évidemment, tu as raison, racheter une base installée, c'est intéressant. J'imagine aussi qu'il y a tout un parc de brevets qu'il est possible de rentabiliser, un savoir-faire, un développement marketing, etc., qui va être exploité par Amazon. Écoute, très bien. Comme je disais, je suis pas certain qu'il y ait beaucoup d'autres choses qu'on puisse en dire. Si, moi, la question aussi que je me posais, c'est, on parle de Ring qu'ils avaient racheté, qui était effectivement à l'époque surtout des sonnettes connectées. Maintenant, il y a aussi de l'alarme, de la télésurveillance, etc. Et quelque part, j'ai l'impression que Ring fait partie de ces marques qui ont un savoir-faire technologique qui est intéressant, c'est convaincant, mais il y a cette espèce d'empreinte Amazon qui fait que une partie des gens peuvent dire non, Ring c'est des très bons produits, mais moi je veux pas des produits Amazon parce que justement ils ont trop de place, ils captent trop d'infos. On a eu aussi de l'actualité autour de la saisie d'informations captées par Ring par les autorités américaines sans même que l'utilisateur soit informé. Donc bon, on a un peu cette espèce d'aura un peu négative des produits Ring, qui n'est pas généralisée, mais qui est quand même présente. La question, c'est est-ce que ça va être le cas aussi pour iRobot ? On verra.
Je ne sais pas, c'est dur à dire. Par contre, il y a une acquisition qu'on a oubliée, c'est il y a 2 ans, ils ont racheté Hero, ou deux ou 3 ans. Tu sais, c'est des routeurs Wi-Fi Mesh. Donc tu sais, ils avaient racheté ça, la société elle était presque en faillite, je crois. Enfin, ils l'ont racheté, tu vois, elle était vraiment pas très bien économiquement. Et tu vois, on n'en a plus entendu parler, tu vois, j'ai googlé avant l'émission, et globalement, il n'y a pas eu d'informations, il n'y a pas eu de scandale, machin, lié à ça, sachant que c'est quand même une société qui, d'un point de vue de données, a beaucoup, beaucoup plus de données encore qu'un aspirateur robot, tu vois, parce qu'ils voient tout ton trafic Internet. Donc, c'est pour ça que ça ne me fait pas trop peur d'un point de vue, genre, quelles données Amazon va avoir accès. Je pense que leur but, c'est plus de te vendre des trucs pour la maison et d'avoir un écosystème que genre d'exploiter ce filon de données qui sur le court terme ça peut faire sens, mais sur le long terme je pense qu'ils savent que ça peut pas marcher.
Oui, de toute façon s'ils développent en matière de recherche et développement beaucoup des robots qui techniquement servent à rien d'autre que de balader un assistant Alexa chez toi, ils ont tout intérêt effectivement à prendre l'autoroute que représente l'installation des Roomba dans nos intérieurs, donc de la société iRobot. Bon, vous serez informés comme ça de ce rachat, de cette intention. L'autre volet des infos un peu phares que je proposais qu'on aborde dans cet épisode du Rendez-vous Tech, c'est quelque part un peu la continuité de ce que Patrick avait évoqué dans le dernier épisode, puisqu'il évoquait les questions de droit que représentaient les intelligences artificielles qui généraient des images. Donc on le sait, hein, c'est tout un mouvement maintenant, on a parlé de Dolly, il y en a d'autres, et en particulier il y a Midjourney, dont on va un tout petit peu parler là dans cet épisode, qui sont donc des programme quelque part, hein, où vous mettez une description, une phrase, une requête, vous pouvez donner ce que doit contenir l'image, vous pouvez indiquer également le style que doit utiliser le programme pour vous générer votre image. Donc ça va être de la peinture, de la photo réaliste, du dessin, même parfois vous pouvez faire des points de croix, hein, si vous voulez, ils sont capables d'être assez souples et de s'adapter aux demandes qu'on va leur générer. Et bien, il y en a de plus en plus de ces programmes, et en particulier, là, on a depuis quelques semaines, les images de Midjourney qui tournent sur Internet, alors qui sont convaincantes, oui et non, en fait, elles sont convaincantes parce que généralement, on voit la partie émergée de l'iceberg sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire les images qui ont été générées en association avec une phrase et où il y a matière à dire, où c'est convaincant, où ça fait réfléchir. Il y a eu beaucoup d'images qui ont été générées avec la phrase « le dernier selfie avant la fin du monde ». Donc là, il y a des images extrêmement anxiogènes qui circulent sur les réseaux sociaux, qui ont beaucoup buzzé. Il y en a d'autres qui sont très convaincantes. Mais une des raisons pour laquelle ça a beaucoup circulé ces dernières semaines, c'est qu'en fait c'est extrêmement accessible. Quand on parle de Dali, on parle quand même d'un programme qui n'est pas accessible au commun des mortels aujourd'hui. Là, on peut être sur liste d'attente pour les phases bêta, mais jusque-là, c'était vraiment uniquement accessible pour un certain nombre d'utilisateurs avertis avec certains contrats de licence. La Midjourney, c'est devenu terriblement simple. En fait, vous avez juste besoin d'un compte Discord et vous pouvez tester, je crois que c'est 25 requêtes gratuitement, où Midjourney va vous proposer donc des résultats où à chaque fois quand vous donc décrivez une phrase, vous avez l'image qui est générée. Il y a quatre possibilités. Vous pouvez faire des variantes, vous pouvez augmenter la résolution, vous pouvez générer donc autant d'images que vous voulez, mais limité à 25 sur sa version gratuite. Et puis après, c'est un abonnement de $10 par mois pour 200 ou 250 clichés. Et puis après, il y a de l'illimité à $30 par mois. En fait, juste ce qu'il faut se rendre compte, c'est que ces images-là, bah, vous pouvez dès maintenant, là, pendant que vous nous écoutez, tester ce type de dispositif. Donc, c'est devenu très démocratisé et on peut très facilement tester maintenant ces images-là. Donc, je voulais juste parler de Midjourney parce que quelque part, c'est un peu la continuité de ce que disait Patrick quand on évoquait Dali et les problèmes de droit que ça pouvait représenter. Et puis, on sent que c'est vraiment une bascule là, qui a lieu cet été où ça devient accessible au plus grand nombre. Ça devient d'ailleurs accessible au travers d'applications qui ont des fonctionnements commerciaux un peu plus obscurs. J'ai vu passer Wonder qui est, ça se présente comme étant une application de génération d'art avec de l'intelligence artificielle, donc comme on vient de le décrire, qui est dispo sur iOS, il y en a forcément sur Android, mais avec des modèles économiques un peu bizarres, basés sur des abonnements qui font que ça peut bon, vite devenir très cher. Donc là aussi, c'est une marque de démocratisation importante. Je sais pas si toi, tu as testé ces générateurs d'images. Est-ce que tu les trouves convaincants? Est-ce que tu penses que j'ai raison de souligner le fait que là, on bascule un petit peu cet été 2022 dans quelque chose qui devient accessible au plus grand nombre?
Ouais, alors je ne les ai pas testés directement, mais bon, je connais pas mal de gens qui l'ont fait, Penn dans le podcast Niptech qui l'a fait, enfin c'est vachement cool, et globalement tu disais, ouais c'est un peu des images qui sont cherry-picked, tu sais, tu prends les meilleures, globalement ça n'a pas l'air d'être trop le cas, ça a l'air d'être assez, genre tu tapes quelque chose, la probabilité que tu obtiennes un résultat qui est bon, elle est très élevée. Mais
sur ce point-là, en fait, ce que je trouve intéressant avec Midjourney, c'est que les images sont systématiquement assez convaincantes. Il y a des bugs, des artefacts graphiques qui font que ça rend pas forcément de manière très convaincante. Là où c'est plus discutable et où on pourra comparer les algorithmes entre eux quand on aura accès à tout ça, c'est à quel point est-ce qu'ils arrivent à vraiment comprendre l'étendue de ce que tu demandes. Et moi, ce que j'ai remarqué avec Midjourney, avec les tests que j'ai fait, c'est que quand tu commences à mélanger plus de 2-3 concepts clés dans ton image, je trouve que quand même les résultats font que... Et puis, enfin, t'as des personnages, moi j'ai demandé par exemple Tintin dans une fusée ou Tintin dans un X-Wing, je crois. Il n'est pas capable de bien générer les personnages de bande dessinée, les personnages de films. Parfois, il arrive à reconnaître notamment Emmanuel Macron, les présidents, les trucs comme ça, quand ils sont bien présents dans des bases d'images. Je pense qu'il peut facilement les générer, mais on sent qu'il y a des limites au niveau des résultats pour comprendre les concepts. Mais graphiquement, t'as raison, c'est très convaincant par contre.
Mais après, tu disais ça devient accessible, mais en fait, moi, c'est le contraire. Enfin, c'est pas vraiment ça qui me choque, mais c'est plus que, tu vois, Dali, ça date d'il y a quoi, d'il y a quelques mois, tu vois. C'est des choses, des modèles, il y a un an, même le meilleur des chercheurs, il avait pas accès à ça, tu vois. Donc, c'est ça que je trouve qui est très impressionnant, c'est que c'est des technologies qui se démocratisent hyper rapidement, tu vois. Genre, et pourquoi aussi? C'est parce qu'on cherche des usages. Globalement, tu vois, Dali, c'est cool, machin, Midjourney, c'est cool, mais il y a pas un usage, l'abonnement où ils vont pas réussir à faire des milliards de dollars juste comme ça avec un service où tu peux générer des images.
C'est sûr.
Que ça reste limité comme besoin. Et donc, le fait que ça se démocratise très vite, c'est aussi qu'on veut trouver des usages. Tu vois, si tu laisses les gens faire, bah, ça se trouve, demain, tu vas avoir l'idée qui va popper d'une startup qui va tomber sur ça et qui va se dire, ah, on pourrait faire ceci, cela. Parce que maintenant, le truc intéressant, c'est aussi de voir quel produit on peut construire avec ça. C'est comme les générateurs comme GPT-3 ou
générateur de texte
BERT,
notamment
de texte, voilà. De base c'était pas très utile, mais maintenant tu commences à avoir des services, je sais plus quand est-ce qu'on voulait en parler dans Niptech, au final on n'a pas eu le temps, mais où t'avais vraiment un service qui te permettait de compléter du texte, de le raccourcir, et donc c'est ce genre de trucs qui vont vraiment être utiles. Et donc c'est ce que j'attends de voir, c'est dans quelques mois qu'est-ce qu'on va avoir comme service, qu'est-ce qu'on va avoir comme nouveaux usages qui vont être développés à partir de ces modèles qui sont un peu les blocs de base finalement, parce qu'ils sont tellement gros, tellement cher, tellement compliqué que de toute façon, il va y en avoir que quelques-uns. Et donc après, d'autres personnes vont venir se plugger là-dessus et créer des choses. Et ça, moi, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va être créé.
Ça va faire partie de cet élan de démocratisation. Moi, l'idée que j'avais trouvée, là, je pense que et ça justifierait un abonnement à $10 par mois. Quand tu fais de la production de contenu pour des podcasts, pour faire des couvertures, des pochettes d'épisodes de podcasts, pour illustrer des articles... Bon, moi, je trouve que ça va très, très bien fonctionner. Alors, pour un truc, effectivement, comme Niptech, le rendez-vous tech, Tech Café, bon, des podcasts tech, ça marche bien. Est-ce que ça va marcher pour tout et n'importe quoi? Je suis pas certain, mais dans le domaine de l'illustration des articles, ça peut avoir un intérêt. on va vite toucher un mur, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'images qui vont se ressembler. Alors chaque image va être par essence assez unique, mais va y avoir quand même un style, un traité graphique qui va être assez différent. Je me demande s'il n'y a pas un nouveau courant graphique qui va émerger sur Internet et qu'on va voir comme ça se répandre, basé sur ces générations d'images, sur la base d'intelligence artificielle. Moi, je ne serais pas étonné, en fait, que ça
c'est vrai. Un peu de mode. L'Internet est très doué à s'approprier ce genre d'outils et on va tomber sur des trucs ultra marrants, ça c'est certain. Et il va y avoir quelques mèmes dans ces... Ça, si on devait faire des prédictions pour l'année prochaine, ouais, je suis sûr qu'il va y avoir quelques bons mèmes qui vont venir de Dali ou d'un truc similaire. Juste, je veux juste reprendre ce que tu as dit à l'instant, tu viens de dire que chaque image est unique et en fait on est en train de se rendre compte que c'est pas forcément le cas. Et quand Patrick parlait la semaine dernière des soucis de droit, en fait c'est l'un des trucs les plus problématiques avec ces histoires de droit, c'est que parfois le modèle il va juste sortir une partie d'une image ou une image entière qui est juste une copie de ce qu'il a dans sa base de données. Et là par contre d'un point de vue droit d'auteur c'est vachement problématique parce que là c'est plus une création originale mais c'est vraiment de la copie. Et c'est le genre de bug, tu vois, que ça existe encore. Dans le futur, probablement on arrivera à l'éviter, machin et tout. Là la recherche en IA elle est très accès là-dessus, disons, mais c'est le genre de choses qu'il faut garder à l'esprit aussi.
Ouais, dernier point, peut-être d'ailleurs, quand on parle de cette histoire de droit, c'est les conditions d'utilisation de Midjourney, là aussi, hein, quand on l'utilise, il y a toute une section d'explication de quels sont les droits, etc. Alors en fait, on a, de ce qu'on peut en comprendre, quand même les droits d'utilisation assez illimités sur les images qui sont générées. Mais effectivement, ça pose quand même question. Alors, je ne suis pas juriste, hein, mais alors déjà, par rapport à ce que tu évoques, c'est comment est-ce que tu vas réussir à prouver ou à démontrer devant un tribunal que l'image que tu as générée rentre en conflit avec des propriétés intellectuelles qui sont existantes. Tu vois, je te parlais tout à l'heure d'images générées avec un X-Wing. Dans quelle mesure est-ce que Disney va pouvoir m'attaquer parce que l'image que j'ai générée s'appuie sur des images de X-Wing de Star Wars. Ça, c'est assez compliqué. C'est vraiment des questions comme ça qu'on va être amené à aborder. Et puis, qu'est-ce qui fait, par exemple, quoi, mon image d'Emmanuel Macron avec un costume de super-héros que j'ai testé, dans quelle mesure est-ce que l'utilisation de l'image d'Emmanuel Macron est mise à mal, alors que finalement je serais peintre et je ferais une peinture aujourd'hui d'Emmanuel Macron, je suis pas certain que je rentrerais en conflit avec les droits d'image d'Emmanuel Macron, tu vois. Enfin, ça, c'est passionnant les problèmes de droit que ça pose quelque part.
Les problèmes de droit sont ultra intéressants et genre, je pense qu'on peut faire une liste de 10 questions comme ça qui n'existent pas dans le droit actuel. C'est ça qui est ultra intéressant, tu vois. Ouais. Parce que le fait que ce soit à une telle échelle, tu vois, que demain, tu peux en créer des dizaines d'images, ça change fondamentalement les choses par rapport à un artiste qui va peindre un truc, tu vois. Parce que ça change le type de loi qu'il faut. Maintenant, si je prends un peu de recul, je me dis, est-ce que ça va fondamentalement changer la façon dont on utilise ces modèles, tu vois? Est-ce que demain, tu vois, Dali, ça va être moins utile parce qu'il va falloir avoir des lois, des safeguards, et tu vois, des trucs autour? Et ça, je pense pas, pour le coup. Je vois pas il y a des problèmes intéressants, effectivement, dans le copyright, mais je pense pas qu'il y a des limites fondamentales par rapport à ça, tu vois.
Non, effectivement. Je suis assez d'accord. Il y aurait des parallèles à faire aussi avec les algorithmes de deep learning sur lesquels, pour le coup, il y a plus matière à voir ce qui est bien, pas bien, même si c'est pas aussi simple. Enfin, bien, pas bien. Ce qui respecte la loi et ce qui ne respecte pas la loi. Mais bon, t'as raison, c'est sans fin. On pourrait faire, je pense, 10 épisodes avec un top 10 des sujets légaux sur les générations d'images. Peut-être pour conclure un peu cette rubrique autour de l'intelligence artificielle au sens large. On avait déjà parlé de cet employé de Google qui estimait que l'algorithme d'intelligence artificielle, donc Lambda chez Google, était doué de conscience. Je pense que vous aviez peut-être suivi cette histoire, et pour vous le résumer très très brièvement, c'est une personne qui a été amenée à travailler justement pour vérifier plus ou moins le comportement de cette intelligence artificielle chez Google, et qui se positionner comme étant un lanceur d'alerte sur le fait que cette intelligence artificielle était douée de conscience. Quand on parle d'intelligence artificielle, quand on parle de conscience, tout de suite, ça nous émoustille tous. Notre fibre technophile est quelque part axée sur la science-fiction et est un peu émoustillée. Bon, très très vite, quand même, quand on regarde objectivement les choses, il y a beaucoup de matière à penser que c'est une intelligence interprétation qui est un petit peu hâtive et peut-être même un petit peu grossière, même si évidemment la conversation avec Lambda peut laisser des doutes quand on n'est pas aguerri dans le fonctionnement d'une intelligence artificielle. Et puis bon, il y a quand même le profil de l'employé qui est quelqu'un qui a été éduqué dans un environnement très rigoureux sur le plan religieux, qui a été ordonné prêtre, si je ne dis pas de bêtises, Blake Lemoine, il a été ordonné prêtre. Bon, voilà, c'est quelqu'un qui a un profil qui est de nature à être sensible sur ce genre de sujet. Alors, il a été viré. Ce qui lui est principalement reproché, hein, c'était de lâcher des informations publiquement, comme le fait tout bon lanceur d'alerte, malgré les encadrements légaux, justement, des employés chez Google et de n'importe quelle boîte, on peut l'imaginer. Il y a quand même eu besoin pour Google de mettre en place une observation scientifique qui se veut, j'imagine, assez objectif sur cette histoire. On parle de 11 processus différents de vérification qui ont été sollicités pour qu'il y ait un consensus de la communauté scientifique et des experts en intelligence artificielle qui s'accordent à dire que l'intelligence qu'on projette, je reprends les éléments d'article que j'ai sous les yeux, que l'on projette sur les algorithmes ou les robots, sont très loin de correspondre à une conscience humaine. Donc c'est intéressant quand même de voir le fait qu'ils sont allés au bout de la démarche et de le virer. Alors, ce qui va donner encore plus de crédit aux personnes qui sont convaincues que les intelligences artificielles peuvent être douées de conscience et qu'on on les maltraite un petit peu comme l'histoire de l'espèce humaine a pu maltraiter certaines parties de la population à une époque. Hein. Je pense qu'il y a probablement une projection sur notre histoire qui se fait dans ce domaine-là. Et puis de l'autre côté, un regard assez objectif, et je pense que c'est le consensus assez large sur le fait que non, il n'y a pas nécessairement de conscience. Juste pour te laisser rebondir si tu le souhaites sur ce sujet, je voulais aussi brancher les auditeurs sur la vidéo de Sylvain. Remplacer le A par un Q, hein, qui est un YouTuber assez connu, qui fait des vidéos qui sont souvent très très cool et très bien travaillées, qui a fait une vidéo où, et ça fera le lien avec le sujet précédent, il a fait une vidéo où il reprend des conversations de Lambda qui sont mises en exergue par Blake Lemoine, et il les illustre avec des images de Midjourney. Donc je pense que voilà, là c'est la vidéo qu'il faut absolument pas rater si vous écoutez cet épisode. Je sais pas si t'as une réaction toi sur cette décision RH de Google.
Pas spécialement, tu disais, ils ont fait 11 processus différents, et je me demande qui est-ce qui a dû dire, ok, le décider de ces processus, tu vois, l'employé derrière son bureau qui s'est dit, ok, comment est-ce qu'on va vérifier que l'IA n'est pas, tu vois, qu'il n'y a pas de conscience, enfin, ouais. Ça devait être très marrant comme, ou un peu triste, je sais pas, c'est un peu délicat. Juste pour noter, Google, à un moment, ils ont dit que si ça se trouve, cet employé avait des problèmes de santé mentale. Donc, il y a peut-être ça aussi qui joue, et c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec cette news. C'est le genre de choses qui doit arriver, tu vois. Genre, forcément, quand tu commences à avoir des modèles qui ont ce genre de, tu vois, qui sont capables de parler, forcément, ça allait arriver, tu vois. Et pour peu que c'est une personne un peu fragile ou qui vient d'un milieu qui est peut-être un peu genre avec des croyances différentes ou quoi, ouais, ça m'étonne pas trop, quoi.
Complètement. Complètement. Ça laisse songeur là encore pour l'avenir de ce qui va pouvoir se passer, puisque les progrès vont être de plus en plus forts, donc les comportements de ces programmes-là vont être de plus en plus convaincants. Donc écoute, on verra ce que ça donnera par la suite. Alors, toujours dans une démarche prospective, et ce sera un petit peu le troisième et dernier sujet phare avant d'aborder le reste de l'actu ensemble, Baptiste, je proposais qu'on parle un petit peu. Alors, j'ai vu passer deux articles, et peut-être que tu as vu, toi, d'autres sources qui complètent un petit peu cette vision-là, mais c'est des articles. Alors, j'ai même pensé, comme je les ai vus traités principalement par 01net et qu'à chaque fois, ça abordait IBM, je me suis demandé dans quelle mesure est-ce que c'était pas du publi rédactionnel et du contenu sponsorisé déguisé. Bon, j'ai pas l'impression. Et pour autant, j'ai pas vu beaucoup d'autres sources qui traitaient du sujet, donc surtout n'hésite pas à me contredire ou à compléter si jamais t'as plus de billes de ton côté. Mais on nous aborde le laboratoire d'IBM et les centres universitaires avec des mathématiciens surtout qui sont vachement impliqués dans cette démarche-là, qui visent depuis assez longtemps, en fait, depuis une vingtaine d'années, à travailler sur des algorithmes de chiffrement. Vous savez aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'algorithmes de chiffrement qui sont là pour protéger les données, pour sécuriser pas mal d'informations qui circulent dans le domaine informatique. Et aujourd'hui, la manière dont se passe ce chiffrement pourrait théoriquement être mis à mal si demain les ordinateurs quantiques arrivaient. C'est un sujet, je crois, qu'on aborde assez régulièrement, hein, dans les podcasts tech, et voilà, je pense que je vous informe pas sur quelque chose de fondamentalement très nouveau. Pour autant, ce qui est assez nouveau, c'est de voir qu'il y a un travail depuis au moins 20 ans, donc a priori sur ce sujet-là. Donc c'est pas un sujet qu'on découvre et qui est laissé de côté et sur lequel on attend qu'il y ait un bouleversement technologique pour agir, mais il y a vraiment des équipes qui bossent sur le sujet. IBM est évidemment un acteur hyper clé sur le sujet parce qu'à la fois ils avancent sur les progrès des ordinateurs quantiques et puis ils ont aussi besoin de travailler sur la manière dont on va se protéger des risques amenés par les évolutions des ordinateurs quantiques. Donc ils sont plutôt bien placés. Et puis surtout, y a des mathématiciens, il y a des chercheurs qui bossent sur le sujet. Et on est à une étape là en 2022 où il y a une shortlist, il y a une liste d'une vingtaine de projets qui sont à l'étude pour définir un standard qui se voudrait être in fine un standard quand même avec une composante open source, mais qui vise à faire des nouvelles manières de chiffrer l'information pour qu'elle soit à l'épreuve des ordinateurs quantiques. Alors, on va pas rentrer dans les détails mathématiques, d'une part parce que je serais très très mauvais pour les aborder et que je raconterais n'importe quoi, et aussi parce qu'à l'audio ça doit être complètement inaudible et imbitable, donc on va surtout pas rentrer dans la manière de les comprendre, sauf si tu arrives à le faire bien mieux que moi, non. Et c'est tout à fait possible, Baptiste. Mais donc il y a y a une shortlist de projets comme ça qui sont en train d'être étudiés au moment où on se parle et qui ont été initiés depuis une vingtaine d'années. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un deuxième article que j'ai vu passer avec donc le chiffrement qui est à l'étude. Un de ces projets-là qui a été cassé en une heure sur un PC monocœur. Alors donc il faut quand même s'imaginer qu'ils sont en train de bosser sur des algorithmes qui veulent être protégés et à l'abri de la puissance des ordinateurs quantiques. Et malgré tout, un simple PC traditionnel monocœur est arrivé à mettre à mal une de ces propositions, ce qui montre à quel point le sujet est pas si évident que ça. A priori, un des éléments qui explique cet échec de la part d'un des porteurs de projets concernés, c'est que il y a beaucoup d'éléments de mathématiques qui sont des composantes de ces chiffrements-là, qui ont été publiés sans bien être compris des cryptographes. Donc a priori, il va falloir arriver à mixer des métiers que je pensais être moi très proches, le domaine de l'informatique, des mathématiques fondamentales. Moi, je pensais que c'était des choses qui finalement étaient assez proches, et ça montre dans le cadre de cette recherche-là à quel point non, c'est des métiers qui sont pas si intuitivement proche que ça, et à quel point non, il va falloir encore plus rapprocher ces métiers-là, ou en tout cas leur permettre de travailler encore plus ensemble pour progresser sur ce domaine-là. Bon, c'est pas en 2022 que va arriver les ordinateurs quantiques, mais on peut satisfaire quand même de se dire qu'on n'attend pas qu'ils soient là pour se poser des questions essentielles, d'autant que, nous le rappelle l'article, il y a aussi beaucoup d'attaques et de récupération de données qui doivent être dormants sur des serveurs, donc peut-être que demain, si un ordinateur quantique débarquaient, ben ils arriveraient à déchiffrer tout un pool de contenus qui ont été volés ou qui ont fait l'objet de fuites pour arriver à les déchiffrer, et on peut pas les déchiffrer aujourd'hui. Bon, c'est bien d'anticiper tout ça. Je sais pas si Baptiste, toi, tu trembles de peur à l'idée que demain toutes nos données puissent sauter parce que l'ordinateur quantique arrivera, ou est-ce que au contraire tu es rassuré parce qu'il y a des chercheurs qui bossent activement à cet objectif-là?
Non, je suis pas spécialement, j'ai pas spécialement pas, peur, mais c'est un vrai problème. Genre c'est pas du tout quelque chose où on peut se dire oui, c'est dans longtemps et tout. Non, c'est vraiment quelque chose qui va arriver, parce que le souci c'est que comme tu l'as bien dit, aujourd'hui, tu as des gens comme, alors peut-être des gentils, des méchants, on va pas débattre là-dessus, mais qui récupèrent des tonnes et tonnes de données qui sont encryptées, et demain le jour où il y a un ordinateur quantique, toutes ces données-là, elles sont plus encryptées. C'est flippant quand tu penses, tu vois, genre ouais. t'as des messages sur WhatsApp, ils sont encryptés avec ça, tout est encrypté avec ça, parce que la façon dont ça marche, comme tu l'as bien dit, c'est que la cryptographie, tous les algorithmes sont publics. Tu vois, la sécurité, en gros, c'est que l'algorithme est le plus public possible, le plus standard possible, tu vois, genre aujourd'hui la plupart des chiffrements que tu utilises, c'est tous les mêmes, globalement il y a un type d'algorithme qui est utilisé, tu vois, avec des différentes versions, des clés plus ou moins grandes, mais globalement l'algorithme c'est le même, comme ça on est sûr que l'algorithme il est robuste, et donc demain, bah, tous ces algorithmes là, s'il y a un ordinateur quantique, bah, il marche plus. Et c'est pour ça que il faut dès aujourd'hui faire des nouveaux algorithmes, penser à comment faire du chiffrement post-quantique, parce que les données d'aujourd'hui elles sont en danger pour demain. Et l'autre truc, c'est que les organisations, elles prennent des années et des années et des années à s'adapter. Je veux dire, à chaque fois qu'il y a une mise à jour de Windows 10, de Windows, de machin, de trucs, genre, t'as toujours des entreprises qui ne se mettent pas à jour. Genre Patrick en parlait, je crois, avec Internet Explorer il y a quelques mois. Voilà, et ça, Du coup, plus on s'y prend tôt et mieux ce sera. Et donc, c'est vraiment pas un sujet, je pense, qu'il faut prendre à la légère. Maintenant, le fait qu'il y ait un alloy qui se soit fait casser, ben, tant mieux, en fait. Genre, c'est bien, c'est le but. La standardisation, au début, il y avait, je crois, 20 ou 30 algorithmes. Ensuite, il y avait donc à la première phase, deuxième phase, troisième phase. À la troisième phase, il y en a un qui a été détruit de cette façon-là. À la quatrième phase, donc celui dont tu parlais a été aussi cassé. Ben, tant mieux. Écoute, c'est comme ça que ça doit avancer. Effectivement, tu disais qu'il faut que les gens collaborent de manière étroite. Oui, mais de toute façon, tu vois, je pense que c'est des métiers qui sont proches. C'est juste que le collaborer, c'est juste être dans le même bureau concrètement, parce que c'est des domaines qui sont tellement pointus qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont spécialistes, et c'est dur d'être spécialiste des deux, tu vois, parce que c'est tellement, tellement pointu et complexe.
Ouais, c'est sûr. Je pense que c'est... Bon, de toute façon, c'est une démarche humaine de recherche scientifique et informatique, forcément, qui est captivante, qu'on va continuer à suivre. Je me posais quand même la question, pour aller jusqu'au bout de l'état de mes réflexions sur le sujet en lisant ces articles, à quel point, à quel point les données qui sont aujourd'hui détenues de manière malveillante parce qu'elles ont été volées, parce qu'elles ont fait l'objet de fuites, bon, de toute façon, elles sont chiffrées avec les méthodes de chiffrement au moment où elles ont été volées, quoi. Donc, je sais pas si... le fait de faire progresser, alors oui, faire progresser la recherche dessus, c'est vital. L'analogie qu'on nous donne, c'est à l'époque où il y avait le boulier compteur pour faire de la compta, on s'imaginait pas à quel point l'ordinateur pourrait bousculer la façon dont on fonctionne. Donc oui, c'est bien d'anticiper les grands changements technologiques. Pour autant, j'ai l'impression que si t'as de la donnée qui est aujourd'hui volée, chiffrée avec les anciennes méthodes de chiffrement, c'est pas parce qu'on va développer des nouvelles manières de chiffrer les données à l'épreuve des ordinateurs quantiques que ça va changer la donne, quoi.
C'est sûr, mais le plus tôt on s'y prend, tu vois, standard, c'est ça, exact. Parce que c'est aussi ça, tu vois. Le plus tôt on a un standard, mieux possible,
c'est. Vrai.
D'autant plus que plus les données sont vieilles, moins elles sont importantes. Je pense qu'on peut, c'est pas super pour les gens d'aujourd'hui, du coup, mais c'est quand même vrai. Globalement, les données d'il y a 20 ans, y a pas grand monde qui en a quelque chose à faire, quoi.
Donc, sauf si c'est des conversations de chefs d'État, tu vois, hyper clés. Mais bon,
c'est clair. C'est clair. Bon, j'espère qu'ils n'arrivent pas à les récupérer de manière si claire quand même.
Ah, on espère. On espère. ça fait un petit peu le tour en tout cas des sujets un petit peu phares qu'on pouvait aborder dans cet épisode. Restez avec nous quand même parce qu'on a plein d'autres sujets qu'on va aborder ensemble. On va en profiter pour faire une petite parenthèse. Je sais que Patrick a l'habitude de le faire et donc moi je vais me prêter aussi à l'exercice à l'occasion de cet épisode 471 alors qu'il a le dos tourné pour vous inciter, si jamais vous écoutez cet épisode, à envisager un soutien financier pour Patrick et pour le Rendez-vous Tech. La mécanique en plus est hyper simple et assez vertueuse, c'est que le Rendez-vous Tech c'est un podcast qui est accessible gratuitement à tout le monde, mais que si jamais vous estimez qu'il a une valeur pour vous, si jamais le fait d'avoir comme ça une veille, même l'été, quand il y a moins d'actualité technologique, et vous avez quand même un épisode qui arrive dans votre smartphone qui vous permet de vous tenir au courant de ce qui se passe, avec j'espère le ton le plus agréable possible, mais aussi une qualité d'information qui soit suffisante pour que vous puissiez vraiment vous baser sur les informations qui vous sont véhiculées. Peut-être que ça vaut le coup de contribuer financièrement. C'est super simple. Vous allez sur patreon.com/rdvtech et vous avez toutes les infos sur la manière de participer, sur à quel niveau vous pouvez participer, comment suspendre aussi votre participation, parce que c'est aussi quelque chose qui est super libre aussi à ce niveau-là. Et puis, la raison pour laquelle aussi je vous incite à envisager ce financement, c'est que on peut le dire aussi, je pense, Baptiste, si Patrick n'avait pas fait du podcast de cette manière-là depuis autant de temps, je ne sais pas si toi, toi et moi, par exemple, on ferait du podcast aujourd'hui. Peut-être qu'on n'en ferait pas, tu vois. Peut-être qu'on ferait des choses de manière différente. Et il y a toute une cohorte d'autres producteurs de contenu en podcast qui sont là aujourd'hui parce qu'elles ont été inspirées par Patrick. Donc, je me dis, ce serait quand même dommage que demain, Patrick, il arrête de faire du podcast parce qu'il n'a plus assez de soutien. Donc, voilà. Si jamais vous aussi, ça vous inquiète, rendez-vous sur patreon.com/rdvtech.
Non, c'est sûr. Le podcast, c'est comme tout. C'est un écosystème. Et en donnant de l'argent à Patrick, ça l'aide à faire du meilleur contenu. S'il y a du meilleur contenu, il y a plus de gens qui l'écoutent. S'il y a plus de gens qui l'écoutent, il y a plus de gens qui écoutent les podcasts, etc., etc. C'est un cercle vertueux, comme beaucoup de choses, finalement.
C'est un cercle super vertueux que tu as très bien résumé, Baptiste. J'adhère à 1000%. On va continuer à aborder donc des petites news et rumeurs. À commencer par, c'est compliqué de faire des épisodes dans le domaine de la tech sans en parler, mais de NFT forcément. Alors pourquoi est-ce qu'on parle des NFT ? Parce que les chiffres sont pas complètement hyper enthousiastes. Je me rappelle, c'est l'été dernier, l'été 2021, où vraiment on a vu les NFT exploser dans l'actualité. C'est pas l'été 2021 qu'ont été inventés les NFT, mais c'est en tout cas l'été dernier qu'ils ont explosé. Et depuis quelques mois, Force est de constater quand même que les ventes de NFT, donc on va le rappeler, hein, les certificats qui se basent sur la blockchain, baissent en volume. En fait, ils baissent, il y a moins de tout, en fait. Il y a moins de vendeurs, il y a moins d'acheteurs, il y a moins de volume de ventes. Et finalement, le marché du NFT se concentre toujours un petit peu plus, principalement avec des plateformes comme OpenSea, notamment. Mais il y a aussi plusieurs NFT qui continuent à être commercialisé, c'est 30% du volume de vente qui est représenté simplement par les CryptoPunks, les MiBits et les Bored Ape Yacht Clubs, que vous connaissez bien. Et en plus, ces trois collections qui appartiennent à une seule entité qui s'appelle Yuga Labs, et en fait, ça concentre, rien que ça, 30% du volume de vente. C'est pas forcément hyper enthousiasmant. Est-ce que finalement, c'est un peu quelque part un aveu d'échec pour toi, Baptiste, de voir qu'il y a cette situation-là qui perdure ? Un petit point aussi important, c'est que t'as un environnement qui serait tout trouvé et qui serait presque parfait pour les NFT. C'est Minecraft. Et Mojang aussi ont pris la parole pour dire non, chez nous, pas de NFT, on bannit ça de nos serveurs. Pourtant, vraiment, par essence, le fonctionnement de Minecraft laisserait place beaucoup à l'utilisation, à la commercialisation de NFT. Et ils mettent en avant l'exclusion que ça représente et le fait de se baser sur la rareté qui laisse place à une certaine forme d'inégalité parmi les joueurs de Minecraft et parmi les membres de la communauté Minecraft. Je sais pas, est-ce que ça t'évoque quelque chose, toi, Baptiste ?
Et je pense que Minecraft, ils l'ont fait à un moment où c'était très facile à dire, finalement.
Oui,
parce que les gens...
c'est vrai, t'as raison.
Oui, c'est ça, genre les NFT étaient en train de tomber, je veux dire, il n'y a personne qui allait les défendre, quoi, concrètement, c'est sûr.
Il y a deux façons de le voir. Soit ils sont très sages parce qu'ils ont attendu que la situation soit mature pour prendre une décision, soit effectivement ils prennent la décision quand c'est facile de l'affirmer, t'as raison.
Ou alors c'est juste, les NFT, ça fait à peu près un an que c'est la vague. Minecraft, ça appartient à Microsoft. Je veux dire, un an pour prendre une décision, non, c'est pas, pour une grosse boîte, c'est pas délirant non plus. Ouais. Mais maintenant, par rapport à la chute du marché des NFT, je dirais que c'est plutôt, enfin, comment dire, je dis sans Schadenfreude, mais c'est vraiment, je pense, que c'est une bonne chose parce que, enfin, on savait tous qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient pas réglo, il y avait beaucoup de choses qui étaient, où il y avait pas de valeur finalement. Et si ça permet finalement aux gens qui font des NFT de vraiment se concentrer sur la technologie, sur les usages, sur vraiment développer des trucs cool et pas juste sur le profit, parce qu'il y avait beaucoup de choses, enfin voilà, c'était juste des pyramides de Ponzi, il y avait beaucoup de choses qui étaient clairement pas viables et qui n'avaient pas vraiment d'intérêt autre que juste voler de l'argent aux gens finalement, en partie, enfin il y avait un peu de ça, et je pense que c'est bien en fait. Je pense que si ça permet aux gens de construire des choses, parce que je pense que la technologie elle est intéressante, si ça permet ça, c'est plutôt globalement une bonne chose, je dirais.
Oui, et puis c'est Numérama qui relayait aussi une rencontre annuelle des développeurs dans l'écosystème Ethereum, qui disent eux-mêmes, ils l'ont repris en titre sur leur article, on a perdu la confiance du public. Je pense que c'est intéressant d'avoir un regard objectif sur ce qui se passe, de reconnaître toutes les dérives pour essayer de gratter. On va enlever tout le gras maintenant et puis on va voir s'il reste effectivement des usages légitimes, des technologies qui peuvent faire l'objet d'une vraie application. Plus que simplement diffuser des NFT dans les réseaux sociaux, parce que oui, Meta confirme la distribution de la fonctionnalité de diffusion des NFT sur Instagram à travers 100 pays. Donc là, c'est en cours. Hein. Peut-être que bientôt, vous allez pouvoir sur Instagram afficher votre singe punk en NFT.
Il est moins bon le timing là.
Alors, pour le coup, il est moins bon ou au contraire, c'est un élément de plus qui montre à quel point les NFT vont mal, parce que quand Meta déploie quelque chose. Non, je suis mauvaise langue, c'est pas bien ce que je fais. Mais on pourrait l'interpréter comme ça. Mais effectivement, le timing est peut-être un peu moins bon. Toujours dans le domaine des informations décentralisées, on a plusieurs petites infos aussi dans le domaine des crypto-monnaies, avec Celsius qui ont fait l'objet d'une fuite de données, malheureusement. En plus de la situation hyper compliquée sur le plan financier de cette entreprise qui bosse sur les crypto-monnaies, et maintenant il y a une fuite de données. Alors c'est une fuite de données qui finalement n'est pas directement liée à la nature même des crypto-monnaies, hein, c'est pas l'activité directement qui est concernée. En plus, c'est un prestataire qui s'appelle Customer.io, qui est grosso modo, on va dire, leur espèce de pack-office sur le cloud, pour lequel il y a un collaborateur donc de customer qui a accédé à une liste d'emails de clients de la boîte Celsius. Et ça fait l'objet d'une fuite. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on peut décorréler de la nature même des crypto-monnaies. Mais évidemment, c'est un clou en plus sur le cercueil de Celsius qui est, qui est frappé. Je les lâche un petit peu rapidement, hein, comme peut le faire Patrick, Baptiste, et puis tu pourras réagir à tout ou partie de ces infos. Tesla, qui a revendu, on l'a vu dans le cadre de l'annonce de leurs résultats trimestriels, 75% de ses bitcoins, alors que Elon Musk avait promis, juré, craché sur la tête de ses enfants qu'il n'en vendrait pas. Il semblerait que les circonstances les aient malgré tout forcées et que, bon, c'est exceptionnel, mais il fallait les vendre. D'aucuns diront que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. On a aussi Vladimir Poutine qui a signé un décret en Russie qui interdit les paiements en crypto-monnaie. Donc, c'est vrai que l'arbitrage des crypto-monnaies en Russie, il est changeant. Et puis, j'ai l'impression que d'un mois sur l'autre, on a des informations qui vont dans un sens ou dans un autre. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les crypto-monnaies ne sont pas du tout interdites en Russie, comme ça peut être le cas par exemple en Chine, mais c'est vraiment les paiements en crypto-monnaie qui sont interdits. Il y a eu une espèce d'affrontement entre, je crois que c'est le ministère des Finances et la Banque Centrale Russe. Il semblerait que c'est la position de la Banque Centrale Russe qui ait obtenu les faveurs de Vladimir Poutine en ultime arbitrage. Je ne sais pas s'il y a un ou plusieurs de ces sujets, Baptiste, qui t'inspirent une réaction.
Pas trop, enfin je dirais, si on regarde un peu les news dans les cryptos, ben, celles que tu évoques là, celles des dernières semaines, globalement on voit vers quoi ça avance, tu vois. Le marché il mature un peu, l'évaluation qui était clairement trop grande, ben elle tombe. La bulle, on dit, les chiffres, c'est qu'il y avait 3 trillions d'assets, je sais plus, d'assets en crypto-monnaie. Ouais, 3 milliers de milliards. Voilà, comme ça, c'est clair. 3 milliers de milliards d'assets. Maintenant, il y en a 1 milliard. 1 millier de milliards, c'est beaucoup. C'est une grosse chute, mais c'est pas non plus zéro, tu vois. Genre, ça reste beaucoup, beaucoup. Et si tu dis que les cryptos, ça vaut rien, bah, 1 millier de milliards, ça reste beaucoup. Donc, je pense que les choses, elles se rationalisent. Les régulations se font. Alors, est-ce que la régulation en Russie, c'est celle qu'on doit regarder? Moi, j'aurais tendance à dire que non, mais ça reste intéressant de voir que, peu à peu, on va vers quelque chose qui est rationnel, tu vois. Peu à peu, on trouve des solutions, on cherche des applications, ça marche parfois, ça marche pas dans d'autres, les régulations arrivent, et je pense que c'est ça. Je pense que c'est comme ça que les choses doivent avancer.
Le monde du Web 3 termine sa crise d'adolescence, peut-être qu'on peut le voir comme ça quelque part.
Comme le web dans la crise des années 2000, tu vois, c'est un peu la même chose. Il y avait aussi des abus, des choses qui marchaient pas, des choses où c'était trop tôt, juste, tu vois, parce que ça aussi. Des fois, quand t'innoves, ben, t'es juste trop tôt. Et donc, il y a eu la bulle en 2001, ça a pas empêché, ou en 2000, je sais plus, mais ça a pas empêché l'internet de devenir ce que c'est aujourd'hui. Et voilà, j'espère que ça sera la même chose pour les cryptos.
Effectivement, et on a besoin d'arriver à cette situation pour voir quels sont les usages concrets qui peuvent être proposés par ces technos. Quand on arrive à la majorité, on a l'emblème, c'est quoi? C'est le permis de conduire, on va dire, hein, quelque part, le symbole de la majorité. Et ben, le symbole absolu de la majorité dans le domaine des cryptos, ça va être pour en tout cas la blockchain Ethereum The Merge. Peut-être, je sais pas si mon analogie tient la route, mais en tout cas, juste pour vous donner une date, parce que c'est un événement qui est très attendu dans ce domaine-là. Donc, vous le savez, hein, Ethereum, c'est une blockchain qui fonctionne par preuve de travail. Donc, en gros, on fait beaucoup, beaucoup de calculs pour arriver à faire avancer le fonctionnement de la blockchain et quelque part être récompensé dans sa participation. Donc, le proof of work et la preuve de travail. Et donc, Ethereum va basculer sur une autre mécanique qui s'appelle la proof of stake. Donc, c'est en gros la preuve d'enjeu. C'est-à-dire, on fait sur la base de la quantité d'avoir qu'on a, on participe à l'effort collectif. Et donc, c'est plus l'effort de travail, mais c'est la quantité d'une donnée qu'on peut mettre en contrepartie qui est considérée. Et cette bascule, donc qui s'appelle The Merge, qui est un événement qui est assez important pour la blockchain Ethereum, aura lieu officiellement, normalement, si c'est pas repoussé, le 19 septembre. Donc là, on est dans quoi? Dans un mois et une semaine, on aura peut-être la blockchain Ethereum qui va changer de visage. Donc c'est un gros événement, hein, qu'on va pas là non plus détailler pour des raisons d'audibilité dans cet épisode de podcast. Par contre, ce qu'il faut attendre, c'est une consommation d'énergie d'Ethereum qui va être réduite de près de 100%, hein, puisqu'on est à 99,95%. Aujourd'hui, le fonctionnement, il consomme, je sais plus, j'avais vu plus que ce que consomme Netflix au niveau mondial et annuellement. Et la blockchain, il est prévu donc qu'elle consomme presque rien, j'allais dire, en comparaison, hein, quand la bascule aura été faite. Et surtout aussi, un gros avantage, c'est le fait qu'on aura une blockchain Ethereum plus rapide et qui sera moins sujette à des congestions. On avait parlé, hein, il y a de ça quelques semaines, quelques mois maintenant, du nombre de validations qui était assez limité pour... de validations de transactions qui était assez limité, nombre de validations de transactions par seconde, pardon, qui était assez limité et donc qui empêchait forcément d'en faire quelque chose d'ampleur. Là, on peut imaginer que ça va donner de l'air. Tu penses que là aussi, c'est un symbole de la majorité, que ça va permettre de voir les choses autrement, de merge, toi, Baptiste?
Alors, la majorité, non. Moi, je dirais l'adolescence, tu vois. C'était une étape obligée, mais tu vois, il y a encore, je dirais, elle a encore un peu d'acné, la blockchain Ethereum, tu vois, elle n'est pas encore complètement adulte. Mais juste par rapport à ça, ce que je trouve qui est vachement intéressant comme observation, c'est que je ne sais pas si tu... Enfin, ça fait longtemps qu'on en parle, tu vois. Ça fait très longtemps qu'on dit, ah, la blockchain Ethereum, elle va passer à Proof of Stake, tu vois. C'est pas il y a 3 mois, ils se sont réveillés, ils se sont dit, ah, il faut passer à la Proof of Stake. Non, ça fait vraiment longtemps. Et je trouve ça vachement intéressant parce que ça montre que, malgré le fait que ce soit une technologie super jeune, la blockchain finalement, ça a déjà énormément d'inertie, tu vois, ça a déjà énormément de dette technique en quelque sorte. Et ça me fait un peu peur, tu vois, parce que si maintenant c'est une technologie qui n'arrive pas à évoluer, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans, tu vois, si ça commence à prendre et qu'il y a des applications qui sont construites par-dessus, qu'est-ce que ça va devenir? Et ça, j'avoue que ça me fait un peu peur et ça, c'est possible que ce soit une limite fondamentale du truc, quoi, que ça n'arrive pas à évoluer en fait.
Oui, la suite au prochain épisode, hein, comme on a l'habitude de dire, on verra ce que ça donne. Mais j'aime beaucoup ton image de oui, c'est plutôt l'adolescence et c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour devenir un adulte et avoir sa majorité. Écoute, on verra ce qu'il en sera dans quelques semaines. Toujours dans un souci d'exhaustivité de l'information tech dans cet épisode, on se doit de vous dire qu'évidemment, il n'y a rien de très nouveau, mais Twitter perd de l'argent en ce moment suite à ses déboires avec Elon Musk dont on parlait il y a quelques minutes et que la date du procès aura lieu très rapidement. Donc là, c'est une première défaite pour Elon Musk qui voulait lui retarder à février 2023. Et non, Twitter a obtenu gain de cause. Le procès se déroulera, je ne sais plus c'est quoi, c'est octobre, je ne sais plus quelle est la date exacte pour le coup. Il me semble que c'est octobre.
Octobre ou novembre.
Il me semble que c'est octobre avec une fenêtre de procès de quelques jours. Peut-être qu'il y aura évidemment des autres étapes dans ce conflit judiciaire, ça j'en doute pas une seule seconde. Mais en tout cas, il y a une échéance en octobre, donc ça va avancer. Et puis Elon Musk qui continue malgré tout, hein, malgré cette situation, à faire un petit peu son troll et qui a lancé un défi au CEO de Twitter en lui disant écoute, on n'a qu'à faire un débat public sur les faux comptes et comme ça, on verra ce qu'on verra, quoi. Et donc, je suis toujours un peu désarçonné de voir que ce personnage, qui a des qualités d'innovation probablement indiscutables, a aussi des comportements. On parlait de majorité et d'adolescence, de véritables gamins, je trouve. Mais bon.
Je suis d'accord.
Le pauvre. Ou on peut l'admirer, c'est selon. Et c'est l'ambivalence des deux qu'on ressent à l'égard d'Elon Musk qui est captivant. Qui continue aussi avec SpaceX à développer le service avec la prochaine itération, ce serait que tu puisses te connecter à Internet grâce à SpaceX directement avec ton smartphone, Baptiste. Moi, ça me ferait rêver si l'abonnement est aussi compétitif que ne le sont les abonnements en France. Tu disais juste avant qu'on enregistre l'épisode que tu es aux États-Unis. Je sais pas combien tu payes ta carte SIM en ce moment pendant que tu es aux États-Unis, mais tu la payes beaucoup plus cher que nous en France au passage.
Pro tip pour les Français, les abonnements français, en général, ils limitent pas le temps que tu peux passer à l'étranger, tu vois. Donc, en fait, j'ai juste ma carte SIM française et normalement, ça marche. Tu vois, Free, ils ont inclus le... J'espère qu'il y a personne chez Free qui m'écoute en ce moment. mais en tout cas, j'ai ma carte SIM Free et ça marche super bien. Et normalement, je peux rester quelques mois comme ça.
Ah oh là là, les Américains, les Canadiens doivent nous envier parce qu'ils payent leur forfait, je le sais, à des tarifs complètement prohibitifs. En fait, ils payent plus cher leur abonnement mobile que nous, Starlink, pardon, en France. J'ai dû confondre SpaceX et Starlink quand je vous relayais les news, hein, mea culpa. Mais vous avez compris que c'est la connexion à Starlink, Internet via Starlink, qui est proposée par les lancements notamment des satellites avec SpaceX, qui sera bientôt accessible sur notre mobile.
Bon. Pour le coup, pour le téléphone, c'est pas encore fait. Ça reste quelque chose qui est pensé. Il faudrait évidemment que les téléphones aient une antenne et tout. Donc c'est pas fait. Et ça reste. Je sais pas quel Elon Musk parle. Est-ce que c'est le Elon Musk qui a fait Starlink ou est-ce que c'est le Elon Musk qui a dit que dans un an toutes les Tesla seront fully autonomous, tu vois? Je suis pas sûr de savoir lequel c'est et j'ai peur que ce soit le deuxième parce que techniquement ça me semble très compliqué. Et l'autre chose qu'il faut voir, tu vois, c'est que Starlink c'est quand même limité en bande passante, tu vois. C'est pas, tu vois, il faut genre chaque satellite a une certaine quantité de bande passante et c'est pas illimité. C'est pour ça d'ailleurs que le service est assez cher. Et donc je suis pas sûr que ça marcherait pour remplacer la 4G, tu vois, ou même que ce serait économiquement viable pour remplacer la 4G. À mon avis, ce serait plutôt quelque chose pour dans des situations où t'as pas de 4G, tu vois.
En fait, ta réaction me montre à quel point j'ai été hâtif dans ma retranscription de cette info, parce qu'en plus, ce qu'on doit préciser, c'est pas du tout une annonce d'Elon Musk qui a dit cette année, vous pourrez vous connecter à Starlink, à Internet avec Starlink et avec votre mobile. C'est plus une demande officielle sur le plan légal d'utiliser certaines bandes de fréquences qui sont aujourd'hui utilisées pour la connexion Internet depuis notre mobile. Donc, vous voyez qu'on en est loin, et je voudrais pas qu'on laisse imaginer qu'il y a eu une annonce qui a été faite pendant l'été complètement incroyable sur ce domaine.
Et ils sont en train de se battre d'ailleurs pour des bandes de fréquences aux États-Unis, c'est assez genre, il y a tout un fight entre Starlink et des opérateurs de 5G pour
Absolument.
Avoir des réseaux, et ils se battent
et l'industrie aéronautique.
Ouais, et ils demandent aux utilisateurs de d'écrire des lettres au régulateur des télécoms pour dire que Starlink c'est trop bien et qu'il faut les laisser avoir les bandes de fréquence. Enfin, c'est très amusant de les voir faire.
Contactez votre député, soutenez leur action.
Ouais.
Alors, à propos de députés et de régulation, il y a un dernier sujet, moi, que je voulais aborder parce que, alors, il est tombé dans la veille beaucoup plus récemment. Aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, je l'ai vu en ce lundi au moment où on enregistre cet épisode, passer ça dans l'actu. Et je trouvais ça intéressant de m'attarder sur le sujet pour avoir ton opinion, ton regard, Baptiste, sur ce sujet. L'idée, c'est que le gouvernement veut faire en sorte que quand on utilise une application comme Waze, comme Google Maps, comme Apple Plan, pour se guider, pour lancer un trajet en voiture, ils veulent qu'il y ait une information, quelque part une information sanitaire qui s'affiche, un petit peu comme quand on a de la publicité à la télé pour, ou à la radio d'ailleurs, pour de l'agroalimentaire, on a des messages manger, bouger, etc. Ils veulent faire l'équivalent pour les applications de géo-guidage avec donc des messages, un hashtag, se déplacer moins pollué. Bon, je trouve déjà le hashtag est... il est discutable, mais bon, c'est pas grave.
Il est pas incroyable.
Il est pas génial, il est pas très très clair en fait en soi. Mais bon, on comprend l'intention. Et en tout cas, à chaque fois qu'on fera une recherche d'itinéraire automobile, il y aurait des messages qui seraient affichés, notamment des messages du type « Pour les courts trajets, privilégiez la marche ou le vélo ». Très bien. Ou « Pensez à covoiturer ». Ou, et c'est parfois encore un peu plus déroutant, « Passez de 130 à 110 km sur autoroute, réduit votre consommation de 20%. » Ou encore, au quotidien, « Prenez les transports en commun. » Et le message doit être présenté à l'utilisateur de manière régulière, dès le résultat de la recherche d'itinéraire, dans un format qui est évidemment lisible, c'est-à-dire pas en mention légale, tout petit, de manière à ce qu'on n'ait pas besoin de zoomer. Et ils veulent même... forcer à ce que l'itinéraire qui est proposé par défaut gros, quelque part, il fasse un peu fi justement de cette possibilité de rouler à 130 km/h en France sur autoroute, et que la vitesse maximale autorisée soit plutôt de... Enfin, la vitesse maximale proposée dans le trajet, dans le calcul, voilà, soit plutôt limitée à 110 km/h. Je trouvais ça intéressant pour deux raisons. C'est que d'une part, il y a le Guillaume complètement réac et très offusqué qui dit « Oh là là, qu'est-ce qu'ils nous font chier, ces politiques, avec des messages sanitaires, y compris dans notre smartphone. En plus, c'est, je crois, un peu un précédent. Il n'y a pas eu l'équivalent des messages sanitaires qu'on a pour l'alimentation dans les applications pour mobile et qui vont donc s'immiscer dans la réglementation sur la manière dont sont faites les applications et dont on les utilise. » Donc, il y a mon côté un petit peu réac. Et il y a mon côté aussi un petit peu conscient des enjeux écologiques qui dit « Bah ouais, mais on n'arrête pas de dire que le réchauffement climatique, et on le constate en ce moment en plein été 2022, à quel point il fait chaud et à quel point les périodes de canicule sont particulièrement importantes, et que ce soit le reflet direct ou pas du changement climatique, en tout cas, il faut s'attendre à voir de plus en plus ça, et donc il va falloir agir. » Mais quand on dit « il va falloir agir », il y a un peu le côté « on ». Il faudrait qu'on se bouge, quoi. Mais qu'est-ce qu'on peut faire soi? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place soi pour faire changer les choses? Je suis pas certain, Baptiste, que parce que toi et moi on fasse un trajet à 110 au lieu de 130 l'été pour aller en vacances et en revenir, ça change quelque chose au réchauffement climatique. Mais en même temps, où se situe la démarche individuelle, où se situe l'effort collectif et où se situe la prise de conscience? Parce qu'on a beau critiquer ces messages sanitaires, il faut aussi les voir dans le temps long et dans une consommation en collectivité pour une prise de conscience d'enjeux sociétaux importants. Du coup, j'avais les deux visages qui s'affrontaient dans mon cerveau, comme tu sais, les deux têtes de Milou qui s'affrontent dans les bandes de dessinées Tintin avec le diable et le petit ange. C'est quelle tête de Milou qui vient en premier à ton esprit, toi, quand tu vois ce type de news?
Moi, c'est plutôt le Milou gentil, je dois dire. Je sais pas. Globalement, je trouve que déjà, ça peut pas faire de mal et ça coûte pas cher. Faut dire ce qui est, globalement, ça coûte pas cher et ça peut pas faire de mal. C'est un peu chiant, mais globalement, si c'est pas trop mal intégré, ça devrait aller. Il y a certaines mesures, notamment le fait qu'il calcule l'itinéraire à 110 au lieu de 130, ça me semble vachement bien, notamment parce que concrètement, c'est vraiment une mesure qui fait économiser une quantité significante de carburant qui ne coûte pas très cher en termes de temps. Donc pour ça, c'est pas mal. Et si c'est par défaut, ben, je pense que ça peut vraiment inciter les gens à le faire. Tu vois, tu sais, il y avait cette théorie économique du nudge où si tu incites les gens un tout petit peu à faire, si tu changes par exemple le truc par défaut de l'un à l'autre, et ben, ça peut induire des changements dans les comportements qui sont énormes. Donc si ça marche, ben, pourquoi pas en fait. Ça me semble pas être complètement délirant, tu vois. On a vu des propositions dans ce genre-là vachement plus débiles que ça quand même, tu vois. Ouais. Surtout que ça, c'est des choses qui sont relativement, je dirais, ancrées dans des faits, tu vois. Je crois que c'était l'été dernier avec toi justement où on parlait du gouvernement qui parlait d'utiliser le Wi-Fi au lieu de la 4G ou de pas streamer des films en HD, tu vois. Ça, c'est vraiment débile. Ça, c'est vraiment.
On a eu
ça fait économiser
exemple, hein,
zéro, tu vois.
Il y a quelques jours où il y a Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, qui disait il incitait les citoyens à faire des petits gestes du style couper la box quand on est en vacances, etc. Est-ce qu'objectivement, en fait, on peut pas dire si je veux que ma box elle soit connectée pendant que je suis pas chez moi. Enfin, peut-être on a des services qu'on veut continuer à utiliser alors qu'on n'est pas chez soi, et c'est tout à fait légitime. Il y a aussi plein de raisons, enfin plein de situations dans lesquelles c'est pas nécessaire. Mais malgré tout, finalement, cet impact, il est dérisoire par rapport aux enjeux qu'il y a et par rapport aux possibilités qu'il pourrait y avoir sur la consommation globale, quoi. Donc
c'est ça. Les transports, dans l'autre sens, c'est quand même des choses qui ont un impact assez conséquent. Tu vois, si tu peux faire demain, tu peux faire en sorte que les trajets sur autoroute consomment 20% de moins en carburant, bah c'est vraiment beaucoup et c'est vraiment pas négligeable. Donc pour le coup, je peux comprendre ces mesures. Tu vois, là, je travaille donc je fais de la recherche dans les voitures dans le trafic. Et tu vois, le type de chiffre que tu as, c'est genre, ouais, telle action, elle te fait économiser 15% de carburant dans le meilleur des cas. Ben là. Et c'est des trucs, tu vois, compliqués, où il y a de la recherche et tout, tu vois, il y a des gens qui travaillent là-dessus. Là, la loi du gouvernement, globalement, ça peut facilement faire économiser 15% aussi, tu vois. Donc, pour ça, je trouve que c'est plutôt. Je suis plutôt pour, je veux dire.
Ouais, et puis quand tu passes de 130 à 110 sur des longs trajets en véhicule électrique, moi qui ai la chance de rouler en véhicule électrique, qui fait mes trajets, y compris vacances avec, je vois la différence en matière de consommation. À 110, t'économises beaucoup plus d'énergie, t'as forcément plus d'autonomie. Ça c'est clair, pour une différence en matière de temps de trajet qui est assez... quelque part assez négligeable à l'échelle humaine pour des vacances en plus. Et dernier point d'ailleurs de cette réglementation, parce qu'il y a un autre volet aussi, c'est forcer au plus tard au 1er décembre 2022 à intégrer tout le réseau cyclable possible, à intégrer aussi les aires de covoiturage et les aires de stationnement dans ces applications de guidage, et au plus tard au 1er juin 2023 rendre accessible facilement pour tous les utilisateurs de ces applications une information relative aux services d'information qui couvre tout ou partie de l'itinéraire suggéré. Donc, il y a vraiment une manière d'encadrer ou de faire évoluer les applications de gestion de trajet. On pense notamment à Apple. Ils n'ont toujours pas déployé, alors que c'est une de leurs fonctionnalités phares, la nouvelle version de plan, en tout cas en France, ils n'ont toujours pas déployé les pistes cyclables, alors qu'elles ont été déployées dans plein d'autres pays et qu'ils sont passés à la nouvelle version, et ça, on l'a toujours pas. Donc, quelque part, c'est un exemple. C'est assez récurrent hein, dans les épisodes de podcast qui parlent de la tech, où on parle du poids de la réglementation dans les usages privés, notamment les solutions des GAFAM qui sont mises à disposition des utilisateurs. Bah là, c'est un exemple concret qui peut peut-être aider à faire avancer Apple pour proposer au mieux des itinéraires en vélo, alors qu'ils ne le font pas aujourd'hui.
Bon, ça, pour le coup, je suis un peu moins pour, parce que c'est genre, ok, demain, Apple, ils peuvent juste ajouter des itinéraires à vélo de mauvaise qualité, ils vont remplir la loi, mais ça va servir à personne, tu vois. Exact. Donc, c'est le genre de choses, ça, pour le coup, je suis pas un énorme fan. De la même façon, pour les aires de covoiturage, je pense que c'est aussi là où parfois, y a un rôle de l'État de donner les données, tu vois. Genre, est-ce que si on veut pas inciter, je veux dire, l'État, ça coûterait pas une fortune, tu vois, de juste d'avoir une plateforme en open data où tu as ce genre de données, tu vois. Je sais pas à quel point ça se trouve, c'est déjà le cas. Et dans ce cas-là, vous avez le droit de venir me le dire sur Twitter et de m'insulter. Mais pas m'insulter, mais le dire, disons, avec véhémence. mais voilà, tu vois, je pense que c'est aussi le genre de cas où faire une loi et obliger les privés à faire des choses, ben c'est bien. Dans l'autre sens, des fois, il y a aussi des choses qui sont à faire par le gouvernement. Et j'aurais tendance à dire que ce genre de base de données ou quoi, ben c'est important aussi que le gouvernement le fasse.
Ouais, c'est presque un prérequis, t'as raison, par rapport à ce type de recommandation, que de fournir la donnée pour permettre à ces services de les implémenter proprement. T'as raison, il faut qu'ils soient exemplaires sur le sujet. Peut-être qu'ils le sont, hein, vous nous direz d'ailleurs. N'hésitez pas à réagir, ce serait intéressant. Bon, il y a plein d'autres infos qu'on aurait pu traiter. J'avais plein de sujets autour de la mobilité justement électrique parce que je trouve qu'il y a vraiment une bascule qui se passe cet été. On pourrait parler un petit peu des tensions. Il n'y a rien de fondamentalement nouveau, mais des tensions qui ont lieu à Taïwan avec la production de puces, avec TSMC. Il y a les rumeurs Apple. On ne pourra pas tout traiter, c'est impossible. J'espère qu'on a retenu les actus qui auront été les plus précieuses et les plus utiles pour vous. On n'a même pas parlé de Winamp qui vient d'avoir une mise à jour. Mais tu ne devais pas utiliser Baptiste Winamp. Tu dois pas.
Je sais pas ce que c'est.
Oh, tu me fais mal. Enfin, Baptiste.
C'est pas un lecteur de médias, un truc
t'es
comme
dur
ça.
Dur avec moi, tu sais. Tu me fais mal dans mon petit cœur de quarantenaire maintenant. Winamp, c'est une application à l'âge d'or du MP3, l'âge d'or où il fallait à peu près une heure pour télécharger une musique en MP3 avec la DSL à l'époque. Je pense que l'immense majorité des gens écoutaient la musique avec Winamp, qui est un lecteur qui était dispo à l'époque sur Windows et qui était très polyvalent, qui en plus était personnalisé. Tu vois, c'était l'ère de la personnalisation de tes applications. Et 8 ans après...
Tu pouvais les rendre moches en toute liberté. Bien sûr.
Alors, elles étaient moches à la base, mais on pouvait les rendre encore plus moches. Et donc voilà, ça rendait beaucoup... Ça donnait beaucoup d'intérêt pour les utilisateurs. Et 8 ans après la dernière mise à jour, Winamp a eu une mise à jour. Donc, ils sont adaptés au protocole HTTPS et tout. C'est magnifique.
Et dans 5 ans, il y aura une mise à jour pour faire pour utiliser la cryptographie post-quantique.
Oui, peut-être. T'as raison, c'est vrai.
Ce serait bien.
On sera définitivement à l'âge de la maturité. Ce sera quand Winamp supportera le Web3. C'est que vraiment, on sera arrivé à l'âge de la majorité, à la majorité de la crypto information. Bon, c'est cool. Merci beaucoup à vous déjà d'avoir écouté cet épisode. C'était un grand plaisir. J'espère qu'on ne vous aura pas dénaturé le podcast que vous avez l'habitude d'écouter. Rassurez-vous, Patrick et sa voix si suave qui vous sont si chères, vous allez les retrouver. Lui et sa voix, donc, dans quelques jours maintenant. Merci beaucoup donc d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez évidemment réagir sur le site sur frenchpins.fr où vous avez tous les podcasts de Patrick, le rendez-vous jeu, le rendez-vous tech et bien d'autres épisodes de podcast. Et puis, vous pouvez aussi nous interpeller pour dire que peut-être on n'a pas fait honneur à Patrick au rendez-vous tech, qu'on n'a pas fait les choses bien. Ou au contraire, peut-être qu'on a fait les choses correctement. En tout cas, on est très preneurs de vos retours. En particulier, Baptiste, si jamais les auditeurs veulent te faire des retours, où est-ce qu'ils peuvent te contacter ?
Alors, s'ils veulent me contacter, le mieux, c'est de me contacter via Niptech, donc le podcast qu'on fait, niptech.com. Je pense que vous pouvez nous trouver là-dessus, c'est le plus simple, niptech.com ou sur Google juste. Et moi, personnellement, c'est @bfright sur Twitter. Je pense qu'il y aura dans les liens de l'émission, il y aura mon handle, sera plus simple que maintenant de les plaire.
Absolument. Merci beaucoup, en tout cas, Baptiste, d'avoir répondu présent pour m'accompagner sur cet épisode estival du Rendez-vous Tech. Moi, je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur Twitter, Guillaume Vendée. Et puis, vous retrouvez d'autres contenus que je peux produire sur guillaumevendée.fr. Et notamment, si jamais la tech vous intéresse, que vous écoutez le Rendez-vous Tech, que vous écoutez Niptech, peut-être aussi que vous aurez intérêt à écouter Tech Café, qui normalement est diffusé chaque semaine aussi, avec un épisode où l'information est assez complémentaire, je pense, sur tous ces podcasts francophones. Retour dans quelques jours maintenant du podcast en bonne et due forme. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, on vous fait des gros bisous. Et puis, écoute, on va passer l'aspi maintenant, on va nettoyer les fenêtres et on va faire en sorte que Patrick retrouve son studio le plus propre possible. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Ciao à toutes et à tous.
Ciao, ciao.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more.
That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.